France Culture.
L'itinéraire, de toute façon, venait de la danse, ça c'est sûr. J'étais donc, mon corps était mon premier objet dont je me suis occupé. Et c'était, je voulais être poète d'abord, je faisais des poèmes, j'étais une sorte de hippie, si vous voulez. J'étais dans des caves, on les appelait existentialistes. Enfin, c'était dans les caves que je dansais comme un fou, quoi. Et j'étais certainement très doué parce que j'avais toujours de la place autour de moi. Je pouvais faire comme je voulais.
Le blanc est là-bas.
Qu'est-ce qu'il préférait, lui?
Ça dépendait du repas, de l'heure, mais il buvait tout.
Il buvait tout?
Tout. Et avec les bouffes, bien sûr,
Oui. Rouge. Toutes les couleurs, hein, oui.
Toute une vie, Daniel Spery, 1930-2024, le festin de l'ogre. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Laurent Pollin.
Mais avec modération ou avec appétit
Avec modération.
Pas de modération.
Pas de modération, non. Je crois pas.
Ouais. Avec.
Ouais. Ah, c'était une époque sans modération.
Sans modération.
Ouais.
Bernard Mullin, on va commencer par une question de prononciation. On parle de Daniel Spoery. Comment on dit ça?
Il y a une discussion très longue sur la prononciation de son nom, avec laquelle lui-même s'amuse. Il est suisse, c'est un nom suisse d'origine, donc c'est Spoery ou Spoery, disons à la Suisse que je ne prononce pas bien. Lui préfère finalement la prononciation française, Spoery, qui est celle qui domine un peu dans sa... C'est-à-dire qu'en Allemagne, il se présente comme Daniel Spoery.
Ça veut dire quelque chose?
Une étymologie dans son nom, c'est celle d'épée, de Speer. D'éperon, de pointe. C'est celle que lui-même met en avant le plus souvent, c'est-à-dire qu'il l'associe un peu à sa démarche artistique, en tout cas dans une partie de ses réalisations. C'est d'éperonner, de pointer, de mettre le doigt sur quelque chose, de mettre une aiguille à un endroit où soit ça fait mal, soit ça fait rire. Mais cette épée-là, ce point, ce Speer en allemand, qu'on retrouve assez clairement dans Spoery, Speer.
C'est un nom qu'il n'a pas eu à la naissance, parce que il s'appelait autrement lorsqu'il est né.
Effectivement, Daniel Isaac Feinstein, de par son père qui s'appelait Feinstein, mais sa mère s'appelait Spoery quand même. Donc il avait quand même ce nom de naissance. C'était peut-être pas son nom d'état civil d'entrée. Il a d'ailleurs gardé sur ses papiers le nom de Feinstein jusqu'à la fin de sa vie, je pense. C'est-à-dire son nom d'artiste était Spoery, ce nom de sa mère, qui lui a permis d'échapper au fond au drame roumain qu'avait connu son père. Et c'est ce nom-là qui lui a permis de sortir de là et de se réfugier en Suisse à ce moment-là.
Spoery est né en 1930.
Pavel Schmitt.
Il est né en Roumanie. Il a grandi dans une communauté juive à Iași, dans le delta du nord de Danube. Et la particularité, c'est que son père, juif, est converti. Il est devenu protestant. Alors déjà, le père était quelque chose qu'il n'était pas. En 1939, l'Allemagne a déclenché la guerre mondiale. Un an plus tard, la guerre est aussi, après la Pologne, arrivée en Roumanie. Tout de suite, les juifs ont été ramassés ou massacré. De toute façon, son père avait été tout de suite déporté. Il est mort dans le train de déportation. C'est ça ce qu'on a appris par des témoins encore vivants avant qu'ils soient disparus. Daniel, il s'est échappé à cette histoire, même qu'il a subi plusieurs arrestations et questionnaires par la Gestapo. Et par la police roumaine qui collaborait en fait avec les nazis. Comme son père était protestant, Daniel n'était pas circoncisé. Et à un certain moment, pour prouver qu'il n'était pas juif, en face des officiers Gestapo, il a descendu son pantalon à l'âge de 11 ans et il a fait voir son zizi tant qu'ils ont laissé aller. Mais pour la mère, il n'y avait aucune question qu'il fallait quitter Roumanie pour arrivée avec les enfants. Et pour ça, elle a dû remplir une fiche que le père est mort par un accident, pas qu'il avait été assassiné, bien victime de cette histoire de déportation. Comme ça, ils sont arrivés en Suisse, et Spery avait été quasi adopté par le cousin de sa mère, qui était à l'époque professeur à l'université de Zurich, et comme ça, il a obtenu le nom de Spery. Et déjà dans les papiers de sortie de Roumanie, il y avait déjà le Spery et pas le Feinstein.
Alors il va grandir en Suisse, où est-ce qu'il va vivre et comment est-ce que l'art va entrer dans sa vie et sous quelle forme au début ?
Il était un rénitent, il n'entrait pas dans le système scolaire, il n'entrait pas dans une situation d'obéir, il était un rebelle, si on veut, avec toutes les facettes. Vouloir être libre, ça veut dire fréquenter le monde, passer des nuits dans les boîtes de nuit, boire, ta. Et dans ce temps, il était entre Zurich et Bâle, et c'est là où, dans les années 50, il a rencontré Jean Tinguely, Eva Epli, des gens qui traînaient dans ce cercle qui étaient intéressés à l'art. Mais lui, particulièrement lui, était complètement fou de danse. Pour la danse, il dansait tout le temps, pour ainsi dire, c'était aussi espèce d'un catalyseur au drame qu'il a subi.
Je pense qu'il a découvert la boisson assez tôt et la danse.
Alexandre Deveau.
Donc il buvait beaucoup. Et il dansait dans les cabarets de Zurich. Et puis c'est comme ça qu'il a été repéré un jour, alors qu'il était ivre-mort, un type qui s'appelait Max Terpis était venu le voir plusieurs fois dans ce cabaret, sans se présenter à lui. Et puis un jour, il est venu le ramasser dehors. Il lui a proposé de se réchauffer, c'était l'hiver, et puis il lui a dit qu'il considérait qu'il avait des talents pour la danse et qu'il devrait prendre des cours. Et c'est comme ça que je peux rire, en suivant les conseils de ce Max Terpis, est devenu danseur. Il s'est formé quelques années à Zurich, à Paris. Tout ça, plus ou moins fauché, mais parrainé par ce Max Terpis, qui avait des relations dans ce milieu de la danse. Et je peux rire de fil en aiguille, et par une succession de hasards aussi, est devenu premier danseur de l'Opéra de Berne. Il est entré en 54. Et il a été danseur dans cet opéra jusqu'en 57. Alors il y a eu un événement, parce que dans cette vie, alors certes il se préparait à devenir danseur, il ne savait pas qu'il allait être danseur d'opéra à ce moment-là, il prenait des cours seulement. Et dans ses pérégrinations entre la Suisse et Paris, il fait la rencontre en Suisse, fortuitement, de Jean Tinguely. Disons qu'il commence par rencontrer la compagne de Jean Tinguely, Eva Epli. Eva Epli, qui s'ennuie dans une soirée où Daniel Spoerry est présent et s'ennuie aussi. Alors, je crois que c'est pas un secret. Tinguely a eu des périodes homosexuelles dans sa jeunesse. Il était venu dans cette soirée pour draguer des mecs et puis sa copine s'ennuyait dans un coin. Donc, Spoerry a pris en charge la copine. Il l'a ramenée dans sa chambre. Donc, elle a disparu de la soirée et Tinguely s'est inquiété quand même à un moment. Puis une connaissance commune lui a dit elle est partie avec un Daniel. Et on lui a donné l'adresse de Daniel. Et il s'est rendu chez Daniel, qui, lui, entre-temps, avait ramené la copine à Bâle où elle vivait, je crois. Et puis quand il est rentré chez lui, Tinguely était dans son lit. Et il a passé une nuit avec Tinguely en ayant peur que Tinguely se venge du forfait commis. Et en fait, ça a scellé une amitié. Et je crois que c'est à cette époque qu'il rencontre Dieter Roth et un certain nombre d'artistes, personnages du monde du théâtre et ou de la poésie. Et dans ces gens, il y avait un certain nombre de personnalités qui s'intéressaient à la poésie concrète et aussi à Marcel Duchamp. Et puis, dans cette dynamique, il s'est intéressé à la poésie concrète avec Dieter Roth, Zellner, Bremer. Mais enfin, avant d'aller vers la poésie concrète, il s'intéressait à la mise en scène. C'est-à-dire qu'il était danseur, puis il s'intéressait à la mise en scène et à la mise en scène d'avant-garde. Donc il a commencé à s'investir dans des rôles de comédien et de mise en scène de pièces d'avant-garde, dont les pièces de Cocteau, de Picasso, de différentes personnalités du monde, comme ça, où il y avait un mélange entre les arts visuels et les arts scéniques. Et une fois qu'il s'intéresse à la poésie concrète, il plonge dedans et il décide de lui-même d'en écrire. L'idée, c'était d'abandonner, de laisser de côté la poésie lyrique et les vieilles recettes de la poésie, d'aller vers une sorte de mise en scène des mots, de mise en page des mots, le côté concret des mots.
De 1957 à 1959, vous avez réalisé une revue de poésie. Quel était son programme ?
Alors, c'était la première revue de poésie concrète. C'était encore une fois une toute petite revue faite à la main avec justement l'héritage de ce monsieur qui m'a déjà sauvé, qui m'a mis sur la voie de danseur, Max Terpis, qui, quand il est mort, il m'a laissé un 16e de sa petite fortune qu'il avait. Et ça, c'était juste assez pour que je fasse mon permis de conduire, que je m'achète ma première petite voiture. Et avec le reste, j'ai fondé cette revue matérielle. Donc, matérielle veut dire matériel, mais dans un sens aussi spirituel. C'est donner du matériel avec lequel le lecteur doit remplir la structure qui est donnée par la poésie concrète. C'est-à-dire qu'une idée peut être lue visuellement.
Déborah Lax.
Le premier départ à Paris dans les années 50 se fait avec, avec Jean Tinguely et Eva Epli, qui sont deux artistes qui ont chacun une pratique déjà assez développée à l'époque, une pratique en art visuel. Et ça va vraiment être tous les deux, à la fois Jean Tinguely et Eva Epli, des compagnons de route pour Daniel Spoerry pendant vraiment toute sa vie. Et la découverte de Paris est vraiment liée à ce trio d'amitié extrêmement fort. C'est tout à fait une communauté bohème. C'est une communauté de jeunes artistes tout à fait sans le sou. Quand Tinguely commence à avoir un petit peu de succès, relatif, mais enfin quand il commence à produire davantage et à exposer un petit peu plus, il a besoin d'aide. Donc Spoerry est là et l'accompagne. Aujourd'hui, on dirait que c'est son assistant. C'était pas tout à fait dans ces termes-là que c'était pensé à l'époque, mais en tout cas, au moment où Spoerry est danseur et poète, tout d'un coup, il se retrouve à manipuler des objets, à penser le mouvement avec Jean Tinguely. Et un jour, il raconte qu'il est avec Jean Tinguely aux puces, et il lui dit, cet étal des puces, donc c'est vraiment des puces très très pauvres, on parlerait de bifins aujourd'hui, enfin c'est des étals qui sont posés au sol sur des tissus. Donc Daniel Spoerry dit à Jean Tinguely, ça c'est cet étal des puces-là, je voudrais le garder exactement comme ça, et ce serait une œuvre. Et Jean Tinguely lui dit, je vais t'aider, on prend ça et on le fixe. Donc Daniel habite à l'hôtel, en effet. Il a plusieurs résidences successives, mais la plus marquante, c'est celle de l'hôtel Carcassonne, dans le quartier Mouffetard. Et c'est une résidence marquante parce qu'en fait, il va utiliser cette chambre comme étant la première scène de son travail. Cette scène, au départ, c'est une scène de rencontre amicale, de dialogue, de dîner improvisé sur des petits coins de table. Il n'y a même pas vraiment de table, donc on met des planches sur des chaises et puis on mange sur le lit et puis voilà. Mais tout commence vraiment par les rencontres et par l'amitié.
Lors de son premier séjour à Paris,
Bernard Muller,
à l'hôtel Carcassonne, rue Mouffetard, il me semble, il s'ennuyait et sa copine de l'époque, Kishka avait quitté les lieux et avait laissé sur une chaise son petit déjeuner, une tasse, un bout de croissant, une cuillère avec un peu de confiture dessus. Et dans c'est pour ça que c'est un peu, j'ai utilisé le terme d'absurde tout à l'heure, il observe cette scène, il dit tiens, je vais la coller et je vais mettre la chaise à la verticale au mur et elle sera amusée quand elle reviendra de son tour en ville.
C'est une blague.
C'est une blague, voilà, c'est un jeu, c'est un amusement.
La table de Kishka, c'est le premier tableau piège, c'est collé avec la colle. Schperi prend le petit déjeuner, c'est un matériel très sommaire, c'est un plateau posé sur une chaise, un vieux plateau sur une vieille chaise avec deux tasses, et puis peut-être quelques miettes et les restes d'un petit déjeuner. Il prend de la colle araldite et puis il fixe tout sur ce plateau, et le plateau lui-même fixé sur la chaise. Et en fixant ainsi le souvenir d'un moment qu'on peut peut-être considérer comme un moment de grâce qu'on passe avec quelqu'un, enfin qu'il a passé avec quelqu'un qu'il aimait. Il fixe le mouvement amoureux, peut-être le souvenir. Et alors l'avenir de cette chaise, c'est qu'elle devient œuvre d'art. En devenant œuvre d'art, il a l'idée de la hisser à la verticale comme un tableau. Et donc il y a l'idée d'un renversement de la gravité, où c'est-à-dire que quelque chose qui normalement devrait tomber reste en suspens. C'est la grande invention de Schperi. Donc le principe à cette époque, c'était que chaque artiste voulant entrer dans l'avant-garde devait trouver un truc. Il fallait se faire identifier un langage, une grammaire, disons. Il y en a qui faisaient des compressions, il y en a qui faisaient des accumulations, il y en a qui faisaient des œuvres en mouvement. Et Schperi, lui, a décidé de faire le tableau piège en piégeant des situations par la disposition des objets. Et cette création du tableau piège lui a permis d'être identifié tout de suite comme artiste d'avant-garde et de rejoindre ce qu'allait devenir le groupe des nouveaux réalistes. Et donc il arrive en 60, au moment de la création du groupe des nouveaux réalistes par Restani, il signe le manifeste en étant lui l'inventeur du tableau piège.
Tableau piège. En allemand, c'est das Fallenbild. En italien, tavolo trappola. Donc le piège, qu'est-ce que ça veut dire le piège? Qu'il piège la réalité. La réalité trouvée, il la piège sur le support et le tourne justement de l'horizontale à la verticale. En allemand, il y a encore un autre sens, fallen, ça veut dire tomber. Donc, das Fallenbild, c'est une fois le piège, et d'autre côté, c'est le fait de la physique, de la gravitation, que quelque chose tombe, qui n'est pas fixé. Et c'est par là qu'il a sa place fixe dans le groupe du Nouveau Réalisme, parce que c'est la réalité réelle, donc une autre vue sur la réalité, que de la reproduire par photo, comme la nature morte, par la peinture, par le dessin, mais il la prend telle qu'elle, donc il va au-delà de la réalité et il reste dans la réalité, avec la réalité piégée. Et cette fixation, la détermination que rien ne doit bouger pendant le processus de la fixation, c'est quasiment le processus d'un criminologue quand il arrive dans une situation qu'il faut examiner, tout rechercher. Donc on ne touche à rien, mais on essaye de le fixer.
Je me souviens comme j'étais content de faire ces choses. J'étais pauvre, enfin j'avais rien, mais ces quelques petites choses que j'avais partaient tous les matins ou tous les jours au mur. Donc tout était au mur et j'avais de moins en moins, enfin les quelques fourchettes, assiettes, etc. J'habitais dans une petite chambre au mois à la place de la Contrescarpe. Mais je me souviens de comme j'étais content quand je fixais et quand ces choses étaient au mur. C'était une satisfaction. Pour moi, c'était que je tenais pour la première fois peut-être un territoire, justement. C'était mon territoire que je voyais, et comme il était au mur, j'étais tout d'un coup riche. Je regardais ça d'une manière très contente, heureuse. J'étais très content de voir ça au mur.
À quel moment ça décolle? À quel moment, en fait, il comprend qu'il va pouvoir vivre de ça?
Vous avez dit ça décolle?
Ou ça s'enfonce, j'en sais
parce
rien.
Parce qu'il a passé sa vie à coller.
Voilà, voilà.
Je vous ai pris au mot, cher monsieur.
À quel moment, est-ce qu'il y a une œuvre, une rencontre, une expo, un moment où...
L'invention de tableau-piège date de 1960. Et il a la chance de sa vie que dans les premières semaines déjà, Arturo Schwarz passe à Paris et William Seitz, le musée de l'art moderne de New York, et Arturo Schwarz achète pour une somme incroyable à l'époque, pour un artiste pauvre qui commence, une vingtaine d'œuvres de Daniel Spöri, qui fera aussi la première exposition à Milan dans la galerie Schwarz.
Donc, c'est les Américains.
Il y a... Non. Je parle de Arturo Schwarz qui était de Milan. Et un mois plus tard, c'était l'Américain Seitz qui est venu pour acheter des œuvres. Alors il y avait la chance de subite. Oui.
Les musées sont précurseurs.
Voilà.
Donc,
il avait la chance de pouvoir vendre tout de suite ses premières œuvres.
Un amuseur. Je pense que c'était sa première caractéristique. Il a inventé une forme, d'ailleurs, qui, dans les années 50, avec Klaus Bremer, le Metspiel, qui est une forme de théâtre, de situation. Je crois que c'était l'aspect joueur, ludique, qui le caractérisait d'abord. Donc moi, j'ai connu un joueur, quelqu'un qui jouait avec l'alimentation, avec la recette, qui jouait avec les codes sociaux, les conventions sociales. Sa matière principale, c'était les relations humaines. Tout ce qui se passe autour d'une table, autour d'une assiette, d'une recette, d'une action. Fluxus, par exemple, auquel il se rattachait volontiers, sans dire forcément membre. Cette chose-là est devenue, effectivement, ce principe, cette méthode, son fonds de commerce, à un moment donné. Et ça l'a poursuivi, alors... Ça devenait une occupation quasiment industrielle. Donc ça devenait une occupation qui prenait trop de temps. Et en même temps, ça le sortait d'une situation quand même économique qui au départ était pas très bonne. Il n'était pas d'une famille pauvre, mais il n'avait pas de ressources non plus importantes. Donc il commençait à vivre et à gagner beaucoup d'argent avec le tableau-piège. Et il était donc pris comme c'est une situation humaine assez compréhensible entre deux feux, quoi. Soit continuer le tableau piège, soit se lancer dans autre chose et devenir justement non plus manipulateur du hasard, mais artiste.
Le repas, en fait, commence, enfin son intérêt pour le repas commence, apparaît avec son exposition de mars 1963 à la Galerie J, qui est vraiment un moment extrêmement important pour son œuvre. C'est sa première exposition personnelle, monographique, dans une galerie parisienne. Et là, il va à la fois exposer sur les murs sa collection d'ustensiles de cuisine, 723 ustensiles de cuisine qui sont exposés sur les murs de la galerie. Et il va créer ce qu'on pourrait appeler comme un festival, en fait, avec une programmation de repas tous les soirs. Et c'est lui qui est aux cuisines, le chef Daniel est aux cuisines, et les critiques d'art les plus en vue de l'époque font le service, passent les plats, ce qui est évidemment une métaphore absolument magnifique de l'art, de la création et de la critique d'art. Et donc il y a différents repas, plus ou moins travaillés du point de vue culinaire qui se succèdent, et à la fin de chaque repas, Spoerry conserve les restes sur les tables et en fait des tableaux-pièges.
À partir de 59, c'était Paris, son centre, jusqu'à son départ pour Simi en 67. Une île de Dodécanèse, presque vers Rhodos et la Turquie, une petite île où il a passé toute une année.
Avec sa compagne. C'est vraiment un choix assez radical. Tinguely le met en garde au moment où il part en lui disant « Mais ça commence à fonctionner, tu pars, tu vas plus être visible, et puis qu'est-ce que tu vas faire comme travail là-bas? Et en fait, pendant un an, dans l'île de Simi, Spoerry va penser différemment les objets, penser différemment son rapport à la nourriture. Il disait que à Simi, c'était pour lui impossible de faire des tableaux-pièges parce que c'était une île très pauvre et que les gens n'auraient vraiment pas du tout compris pourquoi il fixait des objets qui étaient tout à fait utilisables encore. Le tableau-piège perdait son sens, en fait, à ce moment-là. Donc, il a développé d'autres pratiques. Il a, par exemple, fait une série qui s'appelle la série des objets de magie à la noix, qui sont une série d'objets extrêmement étranges. Donc, ce sont des objets qui réunissent des fragments de choses pas toujours identifiables qu'ils trouvent sur l'île. Là, on est vraiment du côté du déchet. Et ces fragments-là, ils les assemblent pour créer un sentiment un peu magique. Il a par exemple utilisé, ça c'est quelque chose qu'il a beaucoup raconté, qu'il a beaucoup marqué, une épine, une épingle de métal qu'il a retrouvée un jour dans le foie d'une chèvre qu'il mangeait. Et il a été extrêmement fasciné par cet objet qui avait dû circuler dans le corps de cet animal. Et il construit un objet de magie à la noix, comme il dit, autour de cette épingle. En fait, ce qui nous est donné un peu à comprendre avec cette série d'objets de magie à la noix, c'est l'aspect, disons, de récit, d'évocation que Spoerry cherche autour des objets. C'est-à-dire que pour lui, les objets ne sont pas seulement des formes, ne sont pas seulement des usages, mais ont un sens par la relation que les personnes peuvent avoir avec eux et ont un sens ensuite entre eux dans les assemblages qu'il en fait.
Donc il a préparé en fait ce qui est devenu plus tard avec l'ouverture de son restaurant à Düsseldorf en 68, juste après Simi. C'est le moment où il couvre de nouveau un terrain dans l'histoire de l'art contemporain. C'est la Eat Art.
Et alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce restaurant?
Au rez-de-chaussée, il y avait quelques tables et une petite cuisine. Au premier étage, il y avait une galerie. Et au troisième étage, il y avait des petites chambres où il habitait. Et dans la galerie, il invitait des amis artistes pour faire quelque chose avec de la nourriture. C'était la démarche de cette galerie. Faire quelque chose différemment comme le font les cuisiniers professionnels. Et il fallait que ça devienne un objet ou une affiche ou du graphisme, du dessin, n'importe quoi, mais ça doit rester.
Je crois que c'est vraiment le fil rouge qui traverse tout son cheminement artistique. Il a brodé au fond sur cette notion de table comme terrain de jeu artistique et qui ne va jamais disparaître jusqu'aux dernières sculptures. Et c'est peut-être vraiment un lien très très fort en bronze, très lourd, là, dont on va retrouver des reproductions d'assiettes, de plats, de subtilités, de mets, de, par exemple de raisins sculptés dans du marbre, ce qui est très compliqué à faire. Mais ce fil-là du Eat Art fait, je crois, l'unité de toute son œuvre. Il a breveté quelque part une idée qui était partagée et qui ne lui revient pas à lui seul comme inventeur, mais il en a fait un genre en soi. Il a quand même poussé un certain extrême, l'idée de que l'art se mange, l'ingestion, que c'est alimentaire et que c'est intestinal, que c'est ce thème des tripes là revient à nouveau, ça se passe dans le ventre. Alors pourquoi ça se mangerait pas au fond?
Spoerry m'avait raconté une anecdote quand il a été chez son oncle, accueilli par son oncle. C'est que le moment des repas, il avait un souvenir assez humiliant du moment des repas, puisque il y avait une organisation social autour du repas chez cet oncle, où l'oncle était servi le premier, et ensuite les enfants étaient servis par ordre d'âge, puis sa femme, et en fait Daniel était toujours servi le dernier, alors que c'était pas le plus jeune. Et donc il avait ce statut social de paria, un peu dans la famille, ou de pièce rapportée, je sais pas. de quantité négligeable. Et donc je pense que ça a marqué son souvenir, et qu'il se joue dans les repas familiaux déjà cette idée des rapports de pouvoir.
La manière dont le repas prend de l'importance dans le travail de Spoerry est assez progressive, et je pense qu'il y a plusieurs intérêts qui se superposent. Le premier, c'est le repas comme réunion de personnes et comme créant des possibilités de rencontre et de dialogue. Le second, c'est le repas dans sa réalité, disons, sociologique, éventuellement anthropologique aussi. Donc, une ouverture vers les autres, tous les autres, différentes cultures, différentes cultures culinaires, différents types de pratiques. Faire un repas, c'est créer des situations matérielles avec des objets sur une table, donc ça résonne évidemment avec son travail du tableau piège. Et enfin, ce qu'il y a dans l'assiette, donc vraiment la cuisine comme art. Et il va en effet arriver à un moment où il va créer des banquets œuvres d'art. Le banquet commence par être une réponse de Daniel à son environnement et aux situations dans lesquelles il se trouve. Par exemple, le banquet des riches et des pauvres, il s'appelle aussi « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». C'est un banquet qu'il met en place dans un festival qui s'appelle le festival Eat Art Attrape Trip, qui a lieu à Chalon-sur-Saône en 1981. Un événement qui est aussi imaginé en collaboration avec ses étudiants. En fait, dans l'enseignement, Spoerry développe des parties de sa pratique, donc qui sont de l'ordre de la création collective. Bon. Je pense que c'est un jalon important qui est assez peu connu, en fait. Et pendant ce festival, donc, Daniel Spoerry crée ce banquet qu'il décrit dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un protocole, une sorte de feuille de route de l'œuvre pour qu'elle puisse être recréée. Et cette feuille de route, c'est celle-ci, donc c'est très court, en fait, pour tout un banquet. La soirée débute par un coup de dé qui décidera qui fera partie du groupe des riches ou de celui des pauvres. Le prix d'entrée demandé est le même pour tous. Ainsi, ceux qui seront pauvres pourraient être déçus, mais ils s'apercevront que c'est leur repas qui est le plus intéressant et de meilleure qualité, tandis que le dîner des riches est agréable, mais de goût médiocre. Les tables des pauvres ne seront jamais desservies, à l'exception des assiettes du plat principal. Les serveurs devront desservir la table des riches après chaque plat, de sorte qu'à la fin du repas, leurs tables seront propres et débarrassées. Ça, c'est sa description.
Tout à coup, il y a la moitié des invités qui sont riches, et la moitié sont... Et ils sont assis en face. Mais la magnifique chose est que les riches, les repas et le tout autour fait seulement semblant d'être riche. C'est assez médiocre. La petite crevette, le petit caviar, le petit verre de champagne, et après, je sais pas quoi, confit de canard, c'est une cuisine moyenne. Par contre, celle des pauvres, elle est très simple. C'était souvent des lentilles avec un bout de saucisse, mais c'était la meilleure saucisse du coin. C'était la saucisse de Morteau, et les lentilles de Tarbes, donc des choses vraiment extraordinairement bien faites. Et tout ça finissait par deux possibilités. L'une des possibilités était que les gens étaient tellement fâchés que quelqu'un est devenu pauvre, il a dû payer la même somme que l'autre pour entrer. Donc ils sont partis, ils sont foutus le camp. Mais majoritairement, ça se finissait qu'on a échangé tout le temps la bouffe. On se partageait les riches et les pauvres, on partageait les plats.
Mais tous ces banquets, il les a fait et refait dans des endroits très différents et à des époques très différentes.
Perfectionné, élargi.
Et c'était très drôle parce que moi, je me souviens que j'avais voulu faire goûter
Patricia Brignol
mon vin qui était servi dans du pichet à ma voisine en face de moi. et qui a décliné ma proposition, alors qu'en fait je soupçonnais quand même que quelque part le mien était sans doute meilleur que le sien. Et à l'arrivée, c'est vrai que tous les intitulés crevaient en âge de ceci, de cela, avec des termes affriolants, c'était vraiment de la poudre aux yeux, enfin de la poudre sous le palais.
On parlait de la place des relations dans son œuvre, mais aussi de la place de l'amitié pour Daniel Spoerry.
Oui, l'amitié pour Daniel Spoerry, c'est quelque chose de central pour lui. Il disait « le meilleur de moi-même, ce sont mes amis ». Et en fait, c'est quelque chose qui se ressent dans son travail, qui se voit dans ses œuvres. En fait, dans ses tableaux pièges, dans ses détrompe-l'œil, dans ses repas, ce qu'il travaille, ce sont les relations entre les choses. Et lui, ce qu'il a occupé dans sa vie, ce sont les relations entre les gens. Et chaque amitié la nourrit. Un artiste et ami, Karl Gerschner, disait de lui qu'il possède le don de l'amitié. Ses amis constituent le pôle fixe de son existence instable. Et en effet, Spoerry a, on l'a dit, beaucoup voyagé. Il y a eu la France, l'Italie, les États-Unis, la Grèce... Il s'est installé en Autriche pour la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup circulé, mais à chaque fois, le pôle fixe, en effet, je pense, de son existence, c'est l'amitié. Parfois, les choses se mélangent. Il disait, par exemple, je trouve ça assez beau, il se souvient plus, par exemple, pour sa rencontre avec Marcel Duchamp. Il dit, est-ce que c'est moi qui ai rencontré Duchamp pendant qu'il mangeait des pieds de porc ou est-ce que c'est Tinguely? La proximité est telle que les choses se mélangent.
L'idée que l'art, c'est un jeu, et qu'il ne se situe pas dans l'œuvre ou dans un travail spécifique, mais qu'il est diffracté dans la vie et dans le monde, et qu'il fait partie de cette tradition d'artistes dans la continuité des dadaïstes, du surréalisme, de Fluxus, du situationnisme, qui ont montré que ça fait sens de faire de l'art avec du non-art, quoi. Et que l'art, c'est d'abord du non-art, et que c'est dans la vie qu'il faut le débusquer, et que c'est drôle, qu'il y a une base de ludique. C'est de dire que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Cette formule un peu bouddhiste, au fond, hein, de filou le bouddhiste, parce qu'il avait une pratique bouddhiste, de chercher un peu l'antidote, enfin, les deux choses opposées, de voir comment elles peuvent se bonifier en s'opposant, c'est assez juste. Oui. C'est bien ça, de ça qu'il s'agit, hein, de dire des choses légères avec sérieux et des choses sérieuses avec légèreté.
On sait qu'il n'a pas eu d'enfant et qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant.
Il a craint qu'un enfant capte trop son attention et son énergie et que ça aurait réduit son intensité créative dans son œuvre et ses relations amicales qui faisaient partie de son œuvre. Donc il n'avait pas voulu d'enfant pour cette raison et que... Peut-être aussi qu'il avait un rapport à sa propre enfance qui faisait qu'il était l'enfant. Il était son propre enfant. Je veux dire, il a pris en charge cet enfant abîmé et il s'est occupé du propre enfant qu'il a été. De plus ou moins bonne foi, il prétextait aussi à ses compagnes qui ont presque toutes été artistes que si elles avaient des enfants, elles seraient moins productives.
L'œuvre de Daniel Spoerry, est-ce que c'est une œuvre pessimiste ou c'est une œuvre qui joue avec la mort, qui joue avec la vie, qui joue avec...
Les deux. Joue, c'est un grand jeu. Une de ses très très grandes démarches qu'il adorait, c'était le fameux mot de Mallarmé. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Et ça correspond... à Spoerry. Et pessimisme, oui et non, si on veut, même nihiliste. Cotenil, il y a ça dedans, si on commence à le chercher. Si tu prends une loupe, un verre d'agrandissement, tu le mets sur une petite merde, elle deviendra plus grande. Donc si tu veux chercher du pessimisme, nihilisme, tu le trouveras chez Spéry. Mais il y a aussi la joie de vivre. Et le jeu, oui. Jeu en jeu. Un jour, quelques années après la mort de mon père, Spéry, il me demande pas, non, il me demande, il a affirmativement dit, je voudrais t'adopter. Là, il m'a piégé, là j'ai compris ce qui se passe dans le tableau piège. Il m'a vraiment piégé, j'ai rien dit. Il a rien dit, mais il y avait des regards inoubliables. On se regardait pour un moment. Quelques mois plus tard, je lui dis, par nécessité, si il m'adoptait, je voudrais pas porter son nom, Spéry, mais je voudrais porter le nom de Feinstein. Presque tout se passait spontanément. On est en train de voyager, un trajet de l'Italie pour Weimar, où à 3 kilomètres du centre de Weimar, il y a le camp d'extermination de Buchenwald. Donc, sur ce trajet, il commence à pleurer. J'ai juste demandé, tu veux qu'on s'arrête quelque part? Non, vas-y. Quelques jours plus tard, il me dit que j'aurais toujours aimé avoir un fils comme toi, lui qui a perdu son père, et qu'il n'a pas voulu avoir un enfant. Ce manque de famille avait été remplacé par les amis artistes qui poursuivaient les mêmes perspectives.
Il était toujours...
Jean-Paul Demoule.
Premier, deuxième ou troisième degré. Et donc, effectivement, avec un recul sur les œuvres d'art, sur ses propres œuvres d'art, mais quelque chose de pessimisme qui, évidemment, se comprend facilement d'après son itinéraire, qui appartient aussi en partie à la culture ashkénaze de l'Europe centrale et orientale. Donc, surtout pas se prendre au sérieux et côtoyer sinon le tragique, du moins l'absurde ou le désenchantement.
Vous avez enfoui une table de 120 couverts dans la terre, le but étant un jour de faire un véritable travail d'archéologue en faisant ressortir ces objets du sol afin d'en étudier les origines et les caractéristiques physiques.
Jamais je l'ai fait pour le sortir une fois. Oui. C'était juste l'enterrer, tout en jouant aussi un peu sur ce jeu de mots, j'ai enterré maintenant le tableau piège. Mais c'était un enterrement vrai. Au lieu de le coller, je l'ai mis dans la terre. On venait, on prenait les hors d'œuvre devant le château, avec la vue sur ce parc vert. Et après, il y avait des tripes. Et on mangeait ces tripes. Et à la fin, j'ai dit aux gens, voilà, chacun prend toujours 4 personnes, une table de 2 mètres. Et on descend lentement dans ce fossé, on le dépose et remis toute la terre dessus pendant qu'on prenait les fromages et les desserts de nouveau en bas. Donc c'était fini dans l'espace de 3 heures peut-être.
En 1983, à Jouy-en-Josas, le 24 avril, Spéry crée ou met en œuvre une action qui doit signaler au monde de l'art qu'il sort du tableau piège, en fait, qu'il ne va plus en faire et qu'il va passer à une autre phase de son cheminement artistique. Donc il invite une centaine de personnes, des happy few du monde de l'art, il les convie à un grand repas dont ils sont informés à l'avance, qu'il s'agit d'un enterrement du tableau piège, hein, puisque c'est le déjeuner sous l'herbe à l'occasion de l'enterrement du tableau piège, qui est ce qui apparaît sur le menu et sur l'invitation que les gens reçoivent avant d'y aller. Pendant que les gens s'attablent et découvrent un menu assez brut, à base de tripes et d'abats essentiellement, mais cuite de manière assez sans beaucoup de finesse, enfin de manière assez pas indigeste, mais de manière à ce que les mangeurs aient une impression un peu rude de ce qu'ils mangent, pendant que donc ce beau monde s'attable sur plusieurs tablés, une grue creuse simultanément une longue tranchée parallèle, si on veut, à la table à laquelle sont assis les personnes. À la fin du repas, donc composé exclusivement de voilà d'abats hein, et de tripes, chaque tablé et les gens qui étaient assis à l'endroit de la table sont invités à soulever le plateau et à le déposer dans la tranchée qui avait été creusée précédemment sur toute la longueur. Une pelleteuse va et l'assistance même, il y a une quantité de pelles qui sont distribuées à ce moment-là. Les mangeurs eux-mêmes sont invités à recouvrir le repas qui avait été très peu finalement mangé. Les assiettes sont souvent restées pleines. Beaucoup de gens disaient que c'était pas très bon. Recouvrent l'ensemble. Il commence à pleuvoir et les gens s'en vont.
C'est là qu'on peut aussi faire un autre rapprochement qui n'a jamais été explicite chez Spuri, c'est que quand les Juifs de Yashi, les 13 000, ont été assassinés, les milices roumaines avaient fait avant creuser des grandes tranchées et après ils ont été jetés dans ces tranchées. Donc c'est sans doute pas un hasard qu'on retrouve les tranchées dans le dispositif du déjeuner sous l'herbe et les tripes.
Si j'avais à faire un repas en souvenir de Daniel Spuri, il y aurait en entrée des langues de canard. C'est la seule fois que j'ai mangé des langues de canard de ma vie, c'est avec Daniel Spuri. En plat, ce serait des tripes, puisque la tripe, c'était l'élément du repas, l'élément principal du repas de l'enterrement du tableau piège. Et le mot tripe est un anagramme du mot esprit. Donc l'esprit de Daniel serait dans la tripe. Et il faudrait aussi qu'il y ait quelques spiritueux pour que l'esprit et la tripe s'envolent.
Et en fait, ce qu'il joue avec l'enterrement du tableau piège, c'est son propre Pompéi. Donc c'est à la fois une façon de se débarrasser, mais il sait très bien que les choses restent. Donc il peut y revenir, en fait. Je pense que la possibilité de revenir au tableau piège et de le déterrer a toujours été présente pour lui dans cette œuvre. Faire son Pompéi, c'est aussi conserver.
C'est exactement ce que ça veut dire, un enterrement. On va mettre de la terre dessus. Parce que le mot enterrement n'a rien de triste en soi, on met de la terre sur quelque chose.
Là, vous êtes un fossoyeur.
Je ne suis pas un fossoyeur. Je suis peut-être un faussaire, dans ce sens que je fausse cette suite normale qu'on fait de ne pas enterrer, par exemple, la vaisselle. C'est des traces pour moi-même, pour ma tête et pour les têtes des autres.
Ah, c'est le problème des joueurs, hein. Au bout d'un moment ils s'ennuient, donc il faut qu'ils changent de jeu, il faut qu'ils cassent leur jeu pour passer à un autre jeu. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Pour un ensemble de raisons, il change de vie à ce moment-là, effectivement, il quitte la France et il va s'orienter vers une autre vie, il va devenir enseignant aussi d'abord à Cologne, à Düsseldorf. En tout cas, il va s'inscrire dans une carrière aussi d'enseignant, une posture qui est plus du tout la même que celui qui provoque des situations du hasard dans l'improvisation. Il va donc essayer de conceptualiser ce qu'il fait, de manière à l'enseigner.
Vous avez l'impression que la fécondité de son travail s'interrompt à ce moment-là, qui il va finalement enseigner des méthodes et des recettes pour faire du chperi.
Alors, il va faire des choses complètement différentes. Il va faire des sculptures, il va faire des choses, il va faire des œuvres, des objets. Il ne sera plus dans la volatilité de l'instant social qu'il essaie de saisir, dans la légèreté des moments qu'il veut provoquer, qui ne sont pas d'ailleurs forcément légers, hein, au sens de insignifiant, hein, mais qui peuvent être aussi dramatiques ou avec une idée de mort. Mais là, il va faire des sculptures, des bronzes, du lourd, quoi.
Et il veut laisser des traces. Il a déjà...
Ah, il a 53 ans, il n'est pas si vieux que ça. En tout cas, il se pose des questions sur ce qu'il a fait jusqu'à présent et il a un désir qu'il exprime assez clairement, hein, dans un entretien avec Anne Tronche, de faire maintenant de l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il cherchera une certaine visibilité institutionnelle, une certaine reconnaissance artistique par l'histoire de l'art, ce souci-là, au fond, l'a éloigné de la truculence, de ce que son nom indiquait, au fond, ce côté, cette pointe qu'il jetait, au fond, sur le monde, au travers de ses œuvres précédemment, il va la perdre, comme s'il perdait, s'émoussait quelque chose, son chper s'émoussait.
En réalité, Chperi, à ce moment-là, cherche surtout à explorer des nouveaux territoires et d'autres types de rencontres.
À la fin du XXe siècle, oui, Chperi, quand il a, dans les 70 ans, c'est quelqu'un qui continue à créer énormément, qui a un statut assez particulier, c'est-à-dire qu'il est à la fois plutôt connu, voire même très connu, pour son lien avec le nouveau réalisme, mais le reste de son travail est moins repéré. Et en fait, il a un statut très étrange dans l'histoire de l'art, jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est quelqu'un qui est à la fois... C'est une figure historique, et en même temps, il reste... quasiment marginal dans l'histoire de l'art. Et ça, c'est quelque chose que je m'explique assez peu, parce qu'en plus, il est très lié à différents mouvements. On a parlé du nouveau réalisme, mais il y a aussi le mouvement Fluxus, par exemple. Il a beaucoup d'amitié dans différents mouvements, et Spoerry, c'est quelqu'un qui a eu, pendant toute sa carrière, et aussi au début de la fin de sa carrière, des années 2000, un rôle de liant dans le monde de l'art, à faire se rencontrer les gens.
Il a, semble-t-il, aimé créer ses propres lieux, souvent en lisière du monde de l'art, des espaces physiques et affectifs qu'il dédiait au partage.
Daniel Chperi crée un espace hybride assez merveilleux qui s'appelle le Giardino en Italie, pas très loin du jardin des tarots de Niki de Saint-Phal. Donc c'est un très grand jardin dans lequel sont disséminées des sculptures de lui, de ses amis. Il y a une circulation dans l'espace. On passe d'une œuvre à l'autre, un peu comme si on arpentait les chemins de sa vie. Et il y a aussi là un rapport au Giardino, un rapport à la nature et au vivant qui est pas forcément évident dans son œuvre. Qui apparaît pas comme étant central, mais qui en fait a du sens pour lui, parce que Chperi travaille avec le temps. Son ami Jean Tinguely travaille avec le mouvement, Chperi, lui, travaille avec le temps.
Ce qui est fascinant, c'est que cet homme de l'art éphémère, à la fin de sa vie, s'est mis à faire tout un parc de sculptures en Toscane, là, il Giardino di Daniele Chperi, où il a à la fois collectionné des œuvres en bronze d'autres artistes, mais lui-même fait des œuvres en bronze, et y compris tout en bronze sa première chambre de la rue Mouffetard, entièrement en bronze.
Daniel Chperi a une fondation, un jardin en Italie.
Oui, c'est Giano, en Toscane. Il y a son âme qui est... On peut le sentir, si on veut. Surtout le jardin. À Giano, il Giardino di Daniel Chperi, en Toscane. C'est aussi à quelques personnes qui prétendent dans leurs écrits que c'était son plus grand tableau piège. Mais c'est plus, c'est Chperi piégé. Euh, Et il y a espèce d'un rythme de 7 ans. Tous les 7 ans, il change. Donc, nouveau réalisme, 1960, Simi, 67. Après, il y a Cologne. Après, il y a Munich. Après, il y a Paris. Après, il y a l'Italie. Après, il y a Vienne.
Tu te souviens de son visage ?
Oui. Je le vois souvent, je l'entends souvent aussi, je l'entends parler.
Daniel est mort le 6 novembre 2024 à Vienne, à 94 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste fixé dans ta mémoire ?
Il se trouva que j'ai transporté sa cendre dans l'urne de Vienne à Seggiano, dans son jardin. J'ai fait ce trajet... J'avais l'urne à côté de moi, dans un carton, un petit coffret. On ne voyait pas que c'était une urne. Et je tenais à faire ça d'un seul coup. Pas de dormir quelque part, mais vraiment de faire ça. Bien sûr, avec les poses, je l'ai pris avec. Quand j'étais au bar, j'ai pris mon verre, mon café. Dans le resto où j'ai mangé... Il était sur le siège à côté, et dans la bagnole, bien sûr, à côté. Et jamais j'ai entendu parler avec lui que pendant ce voyage.
C'était un épicurien. Il a aimé les excès d'alcool, de tabac, de bouffe, de voyage, de femmes, d'amitié, de tout ce qu'on veut. En fait, je pense qu'il avait tellement de passions que les passions... s'équilibraient les unes les autres. Finalement, ces excès c'était des excès relatifs et c'était un type que moi, j'ai pas du tout senti angoissé par la mort, alors qu'elle était plus très loin quand je l'ai rencontré et un peu fréquenté, quoi.
Un homme libre, farceur. Un homme qui avait aussi en lui toute une histoire... à la fois ouest européenne, française et centrale de l'Europe centrale. Quoi. Quand on lui demandait de se présenter, il disait « Écoutez, je ne sais pas qui je suis, c'est pour ça que je fais de l'art et que je fais des actions, c'est pour me confronter au monde, pour que ce monde-là me dise qui je suis. » Et il disait il y a quelques mois encore « Heureusement, je n'ai pas trouvé. » Portait ses formes d'humour, ses formes de dérision, ses formes de mélancolie, très propre à un monde qui a aujourd'hui quasiment disparu.
Jamais le hasard n'abolira un Spöri.
Je dirais libre et généreux.
Daniel Spöri, 1930-2024, le festin de l'ogre. Merci à Barbara Rederscheidt, Fabien Valos, John Fou, Déborah Lax, Bernard Muller, Jean-Paul Demoule, Alexandre Devaux et Pavel Schmitt. Oui, oui. Merci à Patricia Brignol, Déborah Sels et les amis de Spöri réunis au Select. Prise de son, Yvan Charby, Ludovic Auger, Romain Lenoir et Stéphane Touvenin. Mixage, Antoine Viossa. Archive, Daniel Spöri de Camille Guichard, Le complexe de Pompéi par Chabou, l'évêque et Marie-Claire Schaeffer. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Laurent Polleré, à retrouver en podcast sur le site de France Culture.
Moi, je pense que Daniel Spöri nous a bousculés et qu'il était un homme très sentimental.